Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Jean-Luc Garnier.
Bonjour.
Alors je suis ravie et c'est avec joie que nous vous retrouvons et je l'espère aussi nos auditeurs. Hein. Donc chers auditeurs, tout de suite vous allez découvrir plus en profondeur au fond votre parcours Jean-Luc. Vous êtes un ancien rappeur qui avait connu un peu ses dérives, c'est de la drogue, de la violence, du sexe. Et aujourd'hui vous êtes cet enfant de Dieu à son écoute, dans ce cœur à cœur, et vous en prenez soin de cette relation personnel avec le Seigneur. Vous êtes fondateur de l'association Amen, oui, je crois, qui est un lieu d'évangélisation et d'organisation d'événements et on en parlait hier et un peu avant-hier, où l'on peut exercer ses talents et au fond ses charismes au service du Seigneur, toujours bien aligné, bien ajusté et toujours dans le discernement.
Exactement.
Voilà. Alors, c'est ce petit garçon de 6-7 ans, et ça c'est toute votre histoire, racontez-nous.
Alors moi je suis troisième né d'une famille composée de 4 enfants, donc je suis un frère puiné, on va dire, et j'ai grandi, je suis né en région parisienne dans 92, Gennevilliers, et à l'âge de 6-7 ans, mes parents ils nous ont laissés en Martinique, aux Antilles, et c'est notre tante qui nous a éduqués pendant 2-3 ans à peu près. Mais notre tante était très très dure, elle avait une éducation à la dure. Donc on se prenait, et même en fait, même dans les établissements scolaires, c'était très très dur. Le directeur de l'établissement scolaire était très dur, les élèves, les profs étaient très durs. Donc c'était vraiment, parfois, j'ai déjà vu le directeur, mais moi je me suis déjà pris des coups de ceinture par le directeur, Donc ça arrivait souvent, en Martinique, dans cette école. À l'époque c'était comme ça, Donc notre tante nous a éduqués à la dure, mon frère et moi, et mes sœurs ont été épargnées puisque c'était des filles, donc peut-être qu'elles ont pas eu la même approche par rapport à ma tante. Mais nous, je sais que mon frère et moi, on a quand même pris assez cher, comme diraient les jeunes.
Donc vous avez connu la maltraitance.
Ah, la maltraitance, oui, à coups de tuyaux, on se faisait laver à coups de brosse à récurer le sol. Et on faisait pipi au lit de par la séparation de nos parents, puisqu'on avait un chagrin. Moi, je sais que j'étais très sensible et que le fait que mes parents soient partis, ça m'avait vraiment beaucoup affecté. D'ailleurs, quand mes parents m'ont repris et que j'ai eu la séparation de ma grand-mère qui était restée en Martinique, j'ai eu comme une calvitie, je perdais mes cheveux tellement le chagrin était fort. J'étais un enfant très sensible. Je crois que j'ai toujours cette sensibilité, mais qui a été ajustée par le Seigneur, bien sûr. Et notre tante nous battait. Je me rappelle, un matin, elle nous a vraiment attrapé, mon frère et moi, de colère. Elle nous a emmenés à la croisée. C'est un lieu où passent vraiment tous nos élèves les élèves de classe, tous nos camarades, en bus, où passent tous les taxis, tous ceux qui vont au boulot, les artisans. Voilà, c'est une croisée avec 4 chemins et qui va d'une ville à une autre. Et puis là, il y avait comme un petit podium en ciment avec une cabine téléphonique. Elle nous a mis en hauteur, tout nus, sur la voie publique, et là, elle vociférait contre nous, elle disait, elle nous accusait de plein de choses, et puis chaque personne qui passait, que ce soit les jeunes comme les plus anciens, tous nous pointaient du doigt et rigolaient. Donc moi, je me rappelle, dans mon cœur de jeune enfant, je me disais, mais qui va me sortir de là? Je pleurais en me cachant mes parties avec mon frère, et je me disais, mais qui va me sortir de là? Mais qui va me sortir de là? Je sais que ça, c'est été un choc assez violent, quoi. D'ailleurs, j'en ai parlé avec un prêtre qui m'a dit, c'est un viol émotionnel. C'est un viol émotionnel. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, et puis, il y a eu aussi cet épisode où, entre des coups, il y a eu cet épisode où j'étais tombé par terre, parce qu'il y avait un chien qui me poursuivait, donc j'avais couru et puis j'étais en t-shirt je me suis retrouvé à tomber sur le sol un chemin avec plein de cailloux, donc j'étais égratigné de partout. Et puis je vais vers ma tante pour recevoir la consolation et en fait je me prends des coups, alors c'était savon de Marseille sur la douche à l'eau froide, eau de Cologne et puis au lit, quoi. Donc j'avais tellement tellement mal que à un moment la douleur elle est tellement intense qu'on tremble, on a tout le corps qui tremble, la mâchoire qui tremble, tellement la douleur est intense. Donc ça a été ponctué par des épisodes comme ça. Et plus tard, ça a été je me suis fait taper à coups de cravache toute une nuit, toujours nu, et toujours cette question qui venait, mais qui va me sortir de là, quoi. Et à coups de cravache parce que je savais pas faire une division, donc ça a duré de 9h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc tout nu, tellement tapé que la cravache s'est cassée sur mon dos, quoi. Donc ça a été ponctué par des moments assez douloureux dans la famille. Et des moments, il y a eu des moments de joie, mais il y a eu des moments très très douloureux. Donc c'était une éducation quand même à la dure, voilà, très très dure. Donc voilà, j'ai grandi.
De quel âge à quel âge, hein, vous arrivez chez cette tante en Martinique, vous êtes un petit garçon de 6-7 ans, c'est
6-7 ans, voilà. 6-7
ans. Et ça a duré combien de temps?
Ben, ça a duré après toute mon enfance, parce qu'après c'est...
Donc là, le début de votre adolescence aussi
Le début de mon adolescence, oui, oui. Mais là, c'était quelqu'un d'autre. Mais comme cette personne, j'ai pardonné à cette personne. Bon, c'était mon père, entre autres. C'est vrai que ça sort pas sur le témoignage parce que j'ai pas voulu le dire sur NDML. Mais j'ai pardonné à toutes ces personnes et je le dis pas. Mais après, on a une éducation qu'on est rentré en France. On a une éducation aussi à la dure, qui était très très dure. C'était encore des coups. Et d'ailleurs, l'épisode de la cravache, ça sort de là, hein, où j'étais frappé, mon frère aussi. Voilà, assez durement. Donc, ça a été vraiment des moments assez difficiles. Et je me rappelle que quand je me suis, le lendemain, après m'être pris des coups de cravache toute une nuit, j'étais boursouflé de partout. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma tête où je me suis renfermé sur moi-même, quoi. Les adultes, je me méfiais des adultes. Je faisais plus confiance à personne. Il y a vraiment, comme disent les jeunes, quelque chose qui a vrillé dans ma tête à ce moment-là, je m'en rappelle. Surtout que j'ai eu 3 jours d'incapacité pour aller à l'école. Je pouvais pas aller à l'école puisque j'avais des traces de partout sur le corps. Et c'est passé, en fait, comme une lettre à la poste, puisqu'il y a eu un décès dans la famille le lendemain. Donc tout le monde s'est activé pour aller voir le membre de cette famille qui avait perdu son conjoint. Et puis, du coup, je me suis retrouvé seul face à mes blessures.
Il y a un épisode où je reviens peut-être en arrière avec cette tante qui était également dure avec son propre fils. Oui. Et c'est votre cousin. Et je crois que l'épisode est dramatique.
Hein. Oui, alors ce cousin qui a eu une déception amoureuse, alors lui, il a vraiment été frappé. Il se faisait frapper tout le temps, il s'appelait Louis. Il a été frappé tout le temps, il était gentil, mais il se faisait frapper tout le temps. Et un jour, il est rentré de France, et puis il a eu une déception amoureuse, et il a bu une bouteille d'ammoniac Q-sec. Donc il était sur son lit de mort, donc plus de trachée, plus de cordes vocales, tout était brûlé à l'intérieur, et il a parlé. Donc le corps médical était stupéfait, mais c'est pas possible.
Déjà un miracle qu'il parle, c'est impossible.
Il a dit c'est pas possible, il a plus rien. Et il a demandé à voir sa mère, donc la tante qui nous tapait, mon frère et moi. Et il lui a dit, écoute maman, je te pardonne, et ne t'inquiète pas, Dieu m'a réservé une belle place. Et là il est mort. Et c'est de là que notre tante a entamé une démarche de demande de pardon auprès de mon frère et de moi. Voilà.
Comment vous l'avez reçu, votre frère et vous, ce pardon de cette tante à l'époque?
Oui,
je ne parle pas d'aujourd'hui, depuis...
On n'était pas chrétiens en plus à l'époque, on avait 21 ans. À l'époque, quand notre tante voulait nous voir, ma mère me disait « Mais votre tante veut vous voir absolument ». Et nous, on n'avait pas parlé de cet épisode à ma mère, à mon père, on n'avait rien dit. Et c'est de là qu'on lui a dit « Voilà, on s'est fait trapper, on a été exposés sur la voie
publique. » C'était le temps de la vérité.
Voilà, c'est le temps de la vérité, et elle a voulu nous voir, donc on a été en vacances aux Antilles, on a été mon frère et moi à la voir, et elle nous a demandé pardon. Voilà.
Vous l'avez reçu?
On l'a reçu, on lui a pardonné. Voilà.
Voilà. Alors, je pense à tous ceux qui vous écoutent, peut-être, parce que là vous abordez un thème, au fond vous avez abordé dans ces quelques minutes et ce troisième épisode de la série, votre témoignage un peu d'abandon aussi de vos parents aux Antilles, avec cette tante. Autre miracle, c'est au fond cette tante qui va avoir un moment de vérité dans sa vie, qui va l'appeler à vous demander pardon.
Nous demander pardon alors qu'on n'était pas du tout convertis. On n'avait pas eu la rencontre avec le Christ. Bien sûr, on a été baptisés, on a eu la première communion, mais on n'était pas du tout dans une vie chrétienne.
Donc là, vous avez 21 ans.
J'ai 21 ans. Ouais. Et avec mon frère, on lui a pardonné. C'est pour ça, quand je livre mon témoignage, ça m'est pas difficile, mais comme ce sont des personnes à qui j'ai pardonné, avec qui maintenant la relation est complètement posée, il n'y a plus de rancune, plus de colère, parce que j'ai eu un chemin de guérison, ça on l'abordera peut-être après.
Demain et après-demain.
Mais voilà, ces personnes, j'ai complètement pardonné, comme mon père, j'ai complètement pardonné à mon père.
Donc là, vous témoignez de la force et de la puissance du pardon.
La puissance du pardon et aussi la puissance de Dieu quand il nous prend et qu'on décide de le suivre et de croître sous son regard. Et on peut pardonner, on reçoit vraiment la grâce pour pardonner et avancer.
Alors on va avancer nous aussi, on a un petit bout de chemin dans cette série avec vous pour vous retrouver demain ici même, Jean-Luc Garnier, à la même heure, et merci, à demain.
Merci.